Telles étaient les idées fondamentales du discours prononcé par le docteur Sigier. Idées qu'il enveloppa dans le langage mystique et le latin bizarre en usage à cette époque. Les Écritures, dont il avait fait une étude particulière, lui fournissaient les armes sous lesquelles il apparaissait à son siècle pour en presser la marche. Il couvrait comme d'un manteau sa hardiesse sous un grand savoir, et sa philosophie sous la sainteté de ses mœurs. En ce moment, après avoir mis son audience face à face avec Dieu, après avoir fait tenir le monde dans une pensée, et dévoilé presque la pensée du monde, il contempla l'assemblée silencieuse, palpitante, et interrogea l'étranger par un regard. Aiguillonné sans doute par la présence de cet être singulier, il ajouta ces paroles, dégagées ici de la latinité corrompue du Moyen Âge. Où croyez-vous que l'homme puisse prendre ces vérités fécondes, si ce n'est au sein de Dieu même? Que suis-je? Le faible traducteur d'une seule lignée léguée par le plus puissant des apôtres, une seule ligne entre mille, également brillante de lumière. Avons-nous tous, saint Paul avait dit, in Deo vivimus, movemur et sumus. Nous vivons, nous sommes, nous marchons dans Dieu même. Aujourd'hui, moins croyants et plus savants, ou moins instruits et plus incrédules, nous demanderions à l'apôtre, à quoi bon ce mouvement perpétuel? Où va cette vie distribuée par zones? Pourquoi cette intelligence qui commence par les perceptions confuses du marbre et va, de sphère en sphère, jusqu'à l'homme, jusqu'à l'ange, jusqu'à Dieu? Où est la source? Où est la mer? Si la vie, arrivée à Dieu à travers les mondes et les étoiles, à travers la matière et l'esprit, redescend vers un autre but, vous voudriez voir l'univers des deux côtés. Vous adoreriez le souverain à condition de vous asseoir sur son trône un moment. Insensés que nous sommes, nous refusons aux animaux les plus intelligents le don de comprendre nos pensées et le but de nos actions. Nous sommes sans pitié pour les créatures des sphères inférieures. Nous les chassons de notre monde. Nous leur dénions la faculté de deviner la pensée humaine. Et nous voudrions connaître la plus élevée de toutes les idées, l'idée de l'idée. Eh bien, allez, partez, montez par la foi de globe en globe, volez dans les espaces. La pensée, l'amour et la foi en sont les clés mystérieuses. Traversez les cercles, parvenez au trône. Dieu est plus clément que vous ne l'êtes. Il a ouvert son temple à toutes ses créations. Mais n'oubliez pas l'exemple de Moïse. Déchaussez-vous pour entrer dans le sanctuaire. Dépouillez-vous de toute souillure. Quittez bien complètement votre corps. Autrement, vous seriez consumé. Car Dieu, Dieu, c'est la lumière. Au moment où le docteur Sigier, la face ardente, la main levée, prononçait cette grande parole, un rayon de soleil pénétra par un vitrail ouvert et fit jaillir, comme par magie, une source brillante, une longue et triangulaire bande d'or qui revêtit l'assemblée comme d'une écharpe. Toutes les mains battirent, car les assistants acceptèrent cet effet du soleil couchant comme un miracle. Un cri unanime s'éleva. « Vivat ! Vivat ! » Le ciel lui-même semblait applaudir. Godefroy, saisi de respect, regardait tour à tour le vieillard et le docteur Sigier qui se parlaient à voix basse. « Gloire au maître !» disait l'étranger. « Qu'est une gloire passagère ? » répondait Sigier. « Je voudrais éterniser ma reconnaissance, » répliqua le vieillard. « Eh bien, une ligne de vous, » reprit le docteur, « ce sera me donner l'immortalité humaine. »« Eh ! Peut-on donner ce qu'on n'a point ?» s'écria l'inconnu. Accompagné par la foule qui, semblable à des courtisans autour de leur roi, se pressait sur leurs pas, en laissant entre elle et ses trois personnages une respectueuse distance, Godefroy, le vieillard et Sigier marchèrent vers la rive fangeuse, où, dans ce temps, il n'y avait point encore de maison, et où le passeur les attendait. Le docteur et l'étranger ne s'entretenaient ni en latin ni en langue gauloise, ils parlaient gravement un langage inconnu. Leurs mains s'adressaient tour à tour aux cieux et à la terre. Plus d'une fois, Sigier, à qui les détours du rivage étaient familiers, guidait avec un soin particulier le vieillard vers les planches étroites jetées comme des ponts sur la boue. L'assemblée les épiait avec curiosité, et quelques écoliers enviaient le privilège du jeune enfant qui suivait ses deux souverains de la parole. Enfin, le docteur salua le vieillard et vit partir le bateau du passeur. Au moment où la barque flotta sur la vaste étendue de la Seine en imprimant ses secousses à l'âme, le soleil, semblable à un incendie qui s'allumait à l'horizon, perça les nuages, versa sur les campagnes des torrents de lumière, colora de ses tons rouges, de ses reflets bruns et les cimes d'ardoise et les toits de chaume, borda de feu les tours de Philippe Auguste, inonda les cieux, teignit les eaux, fit resplendir les herbes, réveilla les insectes à moitié endormis. Réveilla les insectes à moitié endormis. Cette longue gerbe de lumière embrasa les nuages. C'était comme le dernier vers de l'hymne quotidien. Tout cœur devait tressaillir, alors la nature fut sublime. Après avoir contemplé ce spectacle, l'étranger eut ses paupières humectées par la plus faible de toutes les larmes humaines. Godefroy pleurait aussi. Sa main palpitante rencontra celle du vieillard qui se retourna, lui laissa voir son émotion. Mais sans doute pour sauver sa dignité d'homme qu'il crut compromise, il lui dit d'une voix profonde. « Je pleure mon pays, je suis banni. Jeune homme, à cette heure même, j'ai quitté ma patrie. Mais là-bas, à cette heure, les lucioles sortent de leur frêle demeure et se suspendent comme autant de diamants aux rameaux des glaïeuls. À cette heure, la brise douce, comme la plus douce poésie, s'élève d'une vallée trempée de lumière en exhalant de suaves parfums. À l'horizon, je voyais une ville d'or, semblable à la Jérusalem céleste, une ville dont le nom ne doit pas sortir de ma bouche. Là, serpente aussi une rivière. Cette ville et ses monuments, cette rivière dont les ravissantes perspectives, dont les nappes d'eau bleuâtre se confondaient, se mariaient, se dénouaient, lutte harmonieuse qui réjouissait ma vue et m'inspirait l'amour, où sont-ils? À cette heure, les ondes prenaient sous le ciel du couchant des teintes fantastiques et figuraient de capricieux tableaux. Les étoiles distillaient une lumière caressante, la lune tendait partout ses pièges gracieux. Elle donnait une autre vie aux arbres, aux couleurs, aux formes, et diversifiait les eaux brillantes, les collines muettes, les édifices éloquents. La ville parlait, scintillait. Elle me rappelait, elle. Des colonnes de fumée se dressaient auprès des colonnes antiques, dont les marbres étincelaient de blancheur au sein de la nuit. Les lignes de l'horizon se dessinaient encore à travers les vapeurs du soir. Tout était harmonie et mystère. La nature ne me disait pas adieu, elle voulait me garder. Ah, c'était tout pour moi. Ma mère et mon enfant. Mon épouse et ma gloire. Les cloches elles-mêmes pleuraient alors ma proscription. Ô terre merveilleuse, elle est aussi belle que le ciel. Depuis cette heure, j'ai eu l'univers pour cachot. Ma chère patrie, pourquoi m'as-tu proscrit? Mais j'y triompherai, s'écria-t-il en jetant ce mot avec un tel accent de conviction et d'un timbre si éclatant, que le batelier tressaillit, en croyant entendre le son d'une trompette. Le vieillard était debout, dans une attitude prophétique, et regardait dans les airs vers le sud, en montrant sa patrie à travers les régions du ciel. La pâleur ascétique de son visage avait fait place à la rougeur du triomphe. Ses yeux étincelaient. Il était sublime comme un lion hérissant sa crinière. « Et toi, pauvre enfant » reprit-il en regardant Godefroy, dont les joues étaient bordées par un chapelet de gouttes brillantes. « As-tu donc, comme moi, étudier la vie sur des pages sanglantes. Pourquoi pleurer? Que peux-tu regretter à ton âge? Hélas, dit Godefroy, je regrette une patrie plus belle que toutes les patries de la terre, une patrie que je n'ai point vue et dont j'ai souvenir. Oh, si je pouvais fendre les espaces à plein vol, j'irais. Où? Dit le proscrit. Là-haut, répondit l'enfant. En entendant ce mot, l'étranger tressaillit, arrêta son regard lourd sur le jeune homme et le fit taire. Tous deux, ils s'entretinrent par une inexplicable effusion d'âme, en écoutant leurs vœux au sein d'un fécond silence, et voyagèrent fraternellement comme deux colombes qui parcourent les cieux d'une même aile, jusqu'au moment où la barque, en touchant le sable du terrain, les tira de leur profonde rêverie. Tous deux ensevelis dans leurs pensées, marchèrent en silence vers la maison du sergent. Ainsi, disait en lui-même le grand étranger, ce pauvre petit se croit un ange banni du ciel. Et qui, parmi nous, aurait le droit de le détromper? Sera-ce moi? Moi qui suis enlevé si souvent par un pouvoir magique loin de la terre? Moi qui appartiens à Dieu? Moi qui suis pour moi-même un mystère? N'ai-je donc pas vu le plus beau des anges vivant dans cette boue? Cet enfant est-il donc plus ou moins insensé que je le suis? A-t-il fait un pas plus hardi dans la foi? Il croit. Sa croyance le conduira sans doute en quelque sentier lumineux semblable à celui dans lequel je marche. Mais s'il est beau comme un ange, n'est-il pas trop faible pour résister à de si rudes combats? Intimidé par la présence de son compagnon, dont la voix foudroyante lui exprimait ses propres pensées, comme l'éclair traduit les volontés du ciel, L'enfant se contentait de regarder les étoiles avec les yeux d'un amant. Accablé par un luxe de sensibilité qui lui écrasait le cœur, il était là, faible et craintif, comme un moucheron inondé de soleil. La voix de Sigier leur avait célestement déduit à tous deux les mystères du monde moral. Le grand vieillard devait les revêtir de gloire. L'enfant les sentait en lui-même, sans pouvoir en rien exprimer. Tous trois, ils exprimaient par de vivantes images la science, la poésie et le sentiment. En rentrant au logis, l'étranger s'enferma dans sa chambre, alluma sa lampe inspiratrice et se confia au terrible démon du travail, en demandant des mots au silence, des idées à la nuit. Godefroy s'assit au bord de sa fenêtre, regarda tour à tour les reflets de la lune dans les eaux, étudia les mystères du ciel. Livré à l'une de ces extases qui lui étaient familières, il voyagea de sphère en sphère, de visions en visions, écoutant et croyant entendre de sourds frémissements et des voix d'anges, voyant ou croyant voir des lueurs divines au sein desquelles il se perdait, essayant de parvenir aux pointes éloignées, source de toute lumière, principe de toute harmonie. Bientôt, la grande clameur de Paris propagée par les eaux de la Seine s'apaisa. Les lueurs s'éteignirent une à une en haut des maisons. Le silence régna dans toute son étendue, et la vaste cité s'endormit comme un géant fatigué. Minuit sonna. Le plus léger bruit, la chute d'une feuille ou le vol d'un choucasse, changeant de place dans les cimes de Notre-Dame, eussent alors rappelé l'esprit de l'étranger sur la terre, eussent fait quitter à l'enfant les hauteurs célestes vers lesquelles son âme était montée sur les ailes de l'extase. En ce moment, le vieillard entendit avec horreur dans la chambre voisine un gémissement qui se confondit avec la chute d'un corps lourd, que l'oreille expérimentée du banni reconnut pour être un cadavre. Il sortit précipitamment, entra chez Godefroy, le vit, gisant comme une masse informe, aperçut une longue corde serrée à son cou et qui serpentait à terre. Quand il l'eut dénouée, l'enfant ouvrit les yeux.